Chapitre 24, le pensionnat. Le premier jeudi du mois de juillet de l'année 1826, jeudi accompagné de son vieux maître la conduisit à Versailles. Tout le long de la route, la jeune fille ne desserra point les dents. Elle était pâle et morne et levait à peine les yeux autour d'elle. Un moment, Justin, en la voyant si triste, tentit le cœur lui faillir et songea, bravant tous les commérages du quartier, à la ramener à la maison. Il fit part de son intention à M. Müller. Mais soit que le vieux professeur comprît l'intérêt égoïste qui dictait malgré lui les paroles de Justin, soit que, moins intéressé que le jeune homme dans la question et ayant sa conscience plus libre pour agir, il fut déterminé à aller jusqu'au bout, M. Müller tint bon et fit reproche à Justin de sa faiblesse dangereuse. On arriva au pensionnat. L'innocent que l'on conduit à l'échafaud n'a pas un visage plus consterné en arrivant sur la place de l'exécution et en apercevant l'instrument de supplice que celui de la pauvre Mina en voyant les grands murs de pierre qui entouraient la pension et la grille de fer qui y donnait entrée. Ces murs étaient pourtant couverts de lierre et surmontés de clématite. Les lances de cette grille étaient cependant dorées. Madame de Staël, en face du lac de Genève, regrettait son ruisseau de la rue Saint-Honoré. La pauvre Mina, en face d'un palais, eût regretté sa triste maison du faubourg Saint-Jacques. Elle regarda ses deux compagnons de route avec ses yeux inondés de larmes. Mon Dieu, quel douloureux regard! Il fallait vraiment que les deux hommes eussent des cœurs faits de pierre, comme les murailles de ce pensionnat, pour ne pas se fondre devant ces beaux yeux suppliants. Elle les regarda ainsi, tous deux, longuement, profondément, allant de l'un à l'autre, ne sachant plus, à cette heure suprême, auquel elle devait s'adresser, de celui qu'elle considérait comme son père ou de celui qu'elle appelait son frère. Justin allait faiblir. Il avait détourné les yeux pour éviter la blessure dont ce regard lui transperçait le cœur. Müller lui prit la main, la lui serra avec force. Ce serrement de main équivalait à ces mots « Courage, garçon, j'ai grande envie de pleurer, moi aussi, et la preuve c'est que j'étouffe, mais tu vois, je me contiens. Courage! Si nous nous attendrissons devant elle, nous sommes perdus. Tâchons donc de demeurer forts, nous pleurerons ensemble au retour. » Voilà les mille choses que signifiait ce simple serrement de main du vieux professeur. On conduisit Mina à la maîtresse de pension, qui la reçut dans ses bras, et l'embrassa bien plus comme une fille que comme une pensionnaire. Hélas, ce baiser maternel attrista Mina au lieu de la rassérénée. C'était donc ainsi qu'était le monde. Une étrangère avait donc le droit de vous embrasser comme une mère. Elle se rappela son premier réveil dans la chambre de la sœur. Le papier de la chambre de la maîtresse de pension était à peu près pareil à celui de la chambre de Céleste. Tous les souvenirs de ses premières heures de solitude lui revinrent à l'esprit. Elle se sentit plus seule et plus abandonnée que jamais. Justin l'embrassa sur le front, le vieux professeur lui baisa les deux joues, et 5 minutes après, la pauvre Mina entendit se refermer la porte du pensionnat avec ce serrement de cœur du prisonnier qui entend tirer sur lui les verrous de son cachot. La maîtresse de pension la fit asseoir près d'elle, lui prit les mains et essaya de la consoler, devinant bien plus qu'elle ne lisait sur le visage de la jeune fille les traces d'un profond chagrin. Mais au lieu de l'adoucir, ces banales consolations ne firent que l'irriter. Elle demanda à être conduite dans la chambre qu'on lui destinait, car il avait été convenu entre la maîtresse de pension et les deux amis qu'on lui donnerait une chambre particulière pour lui épargner les ennuis du dortoir commun. On fit donc selon son désir et on la conduisit à sa chambre. C'était un véritable boudoir de pensionnaire, trop coquet pour une nonne, pas assez pour une jeune fille du monde. Le papier perse à fleurs bleues rappelait celui que Mina avait fait poser dans la chambre de Justin. Une pendule posée sur la cheminée entre deux vases d'albâtre contenant des fleurs artificielles représentait Paul faisant passer le torrent à Virginie. Une gravure du martyr de Sainte-Julie, patronne de la maîtresse de pension, ornait la muraille ou plutôt, à notre avis, l'attachait de son cadre noir. 6 chaises légères en bambou et en paille de couleurs différentes, une couchette à rideaux de perse bleue tombant d'un baldaquin, un piano entre la fenêtre et la cheminée, un ou deux petits meubles de goût simple complétaient l'ameublement de la chambre, dont à la rigueur eût pu se contenter une jeune fille plus habituée que Mina au luxe et au confort. L'enfant, du reste, fut frappée elle-même de la sérénité que l'on respirait dans cette chambre. Solitude pour solitude, encore la valait-il mieux fleurie et parfumée. Fleurie et parfumée était le mot. Par la fenêtre entr'ouverte, la vue s'étendait sur d'immenses jardins pleins d'arbres et de fleurs. Tout à coup, Mina entendit de grands cris joyeux, presque au-dessous d'elle. Elle alla à la fenêtre, c'était l'heure de la récréation, et une trentaine de petites filles se précipitaient dans la cour pour employer cette heure, rayon de soleil entre la double nuit des classes, le plus joyeusement possible. La cour était sablée, plantée de tilleuls et de sycomores. À travers le feuillage des arbres, comme à travers un voile mouvant, Mina voyait courir, jouer, sauter, danser de toute façon la bruyante troupe. Les grandes se promenaient deux par deux dans les coins les plus retirés. De quoi ses cœurs et ses lèvres de 14 ans parlaient-ils? Oh, comme elle aussi demandait une compagne à qui dire le secret de son cœur, dont son frère Justin n'avait pas voulu. Et cependant, les rires éclatants, les cris joyeux des petites filles agirent sur elle tout autrement que les condoléances de la vieille amie du professeur. Elle repassa tous les souvenirs de ses premières années. Elle revit la petite maison de la Bouille, la mère Boivin, la vache blanche et noire qui donnait du si bon lait qu'elle n'en avait jamais bu de pareil, son bon curé qui avait 64 ans quand elle l'avait quitté, qui devait en avoir 70 maintenant. Elle songea, de cette fenêtre où elle était, que beaucoup de ces jeunes filles riches qu'elle voyait se promener et causer dans ses coins eussent été trop heureuses d'occuper ainsi qu'elle une chambre retirée dans cette aristocratique maison. Enfin, elle songea aux braves gens qui l'avaient recueillie, pauvre, errante, orpheline, qui l'avaient conduite à cette éducation élevée à ce rang. Elle songea à la sainte mère Corbie, à la bonne sœur Céleste, à l'excellent professeur et surtout à Justin dont elle avait vu les larmes, dont elle avait senti trembler la main et qui lui avait murmuré d'une voix si tendre tout en posant ses lèvres sur son front « Courage, mamina chérie, 6 mois sont vite passés ». Alors elle trouva ses regrets égoïstes, sa tristesse ingrate. Alors elle regarda autour d'elle, vit de l'encre, une plume, un papier, prit tout cela dans ses mains et alla s'asseoir à la table où elle écrivit à la famille du faubourg Saint-Jacques une adorable lettre de remerciement et de bénédiction. Il était temps que cette lettre arrivât. Le pauvre Justin était à bout de force. Et il ne fallait pas moins que se souvenir de la jeune fille pour le tirer de la langueur où l'avait jeté ce triste départ. Hélas, quel sombre voyage ils avaient fait au retour, son vieil ami et lui. Ils étaient revenus à pied, croyant trouver une distraction dans ce riant chemin, sûrs au moins d'y trouver la solitude. Ils n'avaient pas échangé une parole. On eût dit deux proscrits fuyant au hasard sans connaître le but de leur course. M. Müller, qui avait été le plus fort en face de la jeune fille, était redevenu faible en face de Justin. À moitié route de Versailles à Paris, il avait demandé à son élève le courage que lui-même avait promis de lui donner. Quand on rentra à la maison, ce fut une scène de désolation. La soirée qui suivit, une soirée de deuil. Mina fut partie pour toujours, Mina eût été en danger de perdre la vie, Mina fut morte, qu'on ne l'eût pas pleurée et regrettée plus qu'on ne la pleurait et ne la regrettait, vivante et à 5 lieues de Paris. Le vieillard crut avoir retrouvé devant les femmes le courage qu'il avait perdu devant Justin et essaya de les consoler. Mais il y avait mauvaise grâce, il sentait qu'il touchait à faux et qu'il parlait contre sa conscience, contre son cœur. Il éclata et confondit ses larmes avec celles de la famille. Oui, de la famille, car Mina était bel et bien de la famille. On l'accusa alors de n'avoir pas assez mûri son projet en éloignant ainsi la jeune fille, d'en avoir hâté l'exécution trop légèrement, d'avoir précipité le départ quand rien ne menaçait encore, et quand d'ailleurs on eût pu mettre l'orpheline dans un pensionnat de Paris où l'on eût été la voir tous les jours. On le rendit responsable des suites de l'événement. Chacun crut enfin alléger sa part du malheur général en en rendant coupable ce bon M. Müller. L'excellent homme écouta toutes ces tardives récriminations, endossa tous ces reproches avec un héroïsme surhumain et partit comme le bouc émissaire chargé des iniquités de la tribu. Une fois M. Muller sorti, une fois ces trois pauvres êtres demeurés seuls, la mélancolie monotone des premières années s'abattit sur leur tête et, comme la chauve-souris nocturne et funéraire, étendit ses ailes de crêpe et plana silencieusement autour d'eux. Et en effet, l'enfant joyeux parti, les murs reprenaient leur teinte sombre, l'oiseau chanteur s'était envolé et la cage était triste. Tout dans l'appartement parlait de Mina pour dire « elle était ici, elle n'y est plus ». La mère qui l'avait jour et nuit sous la main, qui n'avait pas même besoin d'appeler pour entendre accourir l'enfant. La mère qui depuis 6 ans, pour soulager sa fille malade, avait chargé la petite Mina de la direction de la maison, s'en rapportant à elle plus qu'à sa propre fille. La mère avait le cœur navré, en songeant que ce fragile roseau sur lequel elle avait appuyé sa jeunesse allait manquer à sa main. La sœur, cette créature chétive qui n'y pouvait s'endormir le soir sans entendre la voix de ce charmant petit être dont la venue lui avait fait aimer quelque chose au monde en dehors de son frère et de sa mère et fait reprendre quelque goût à la vie. La sœur qui oubliait les biens que Dieu lui refusait en souvenir des joies qu'il donnait aux autres. La sœur, elle aussi, était habituée à voir tourner, courir, marcher et s'agiter autour d'elle, presque toujours assise et immobile, ce salpêtre enflammé qu'on appelle un enfant. Et le frère, le pauvre Justin, redevenu le triste maître d'école, n'était-ce pas lui qui souffrait le plus de cette triste absence ? Quand il était rentré dans sa chambre, cette chambre que Jean-Robert et Salvatore avaient trouvée si virginale et si propette, il n'avait vu que les anciennes murailles nues, que la cheminée vide, que le grand tableau noir, symbole funèbre de ses joies éteintes et de ses illusions envolées. Il s'était jeté tout habillé sur son lit et il avait sangloté toutes ses larmes comprimées par la présence de la famille. Et quoi, cette petite fille, oiseau du matin, moitié rossignol, moitié alouette, dont la chanson l'éveillait tous les jours à la même heure, cet ange qui, tous les soirs, avant de fermer ses ailes, venait lui tendre son front blanc, il n'allait plus le voir, il n'allait plus l'entendre. Mon Dieu, quelle nuit il passa et quel lendemain sombre suivit cette sombre nuit. Heureusement, comme nous l'avons dit plus haut, la lettre de la jeune fille arriva. C'était une action de grâce en 3 pages, un cantique ravissant. Elle demandait pardon de son absence à la famille, comme si elle l'eût été, elle qu'on avait traînée de force à Versailles, la seule cause de son départ. Elle les remerciait de tout le bien qu'elle avait reçu d'eux, comme si le bien ce n'était pas elle qui leur eût donné. Enfin, c'était les pensées d'un ange écrites par la main d'un enfant. Tout cela consola un peu le pauvre Justin. Puis, comme il avait dit à la jeune fille, l'espérance lui disait à lui « Courage, 6 mois sont bientôt passés. » Et cependant, qui sait quels événements peuvent, dans l'espace de 6 mois, tomber de la main ouverte de la destinée.